Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mercredi 18 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
En Tunisie, duel confirmé pour le second tour entre deux outsiders, le juriste sans parti Kais Saied et le magnat controversé des médias Nabil Karoui, actuellement en prison.
Au Mali, report d'une réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger qui était prévu hier à Kidal dans le nord.
En République démocratique du Congo, l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été inculpé mardi pour détournement présumé de fonds alloués à la lutte anti-Ebola.
Washington, accusé par l'Iran d'être dans le déni de la réalité après les récentes attaques contre des installations pétrolières saoudiennes.
En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz sont au coude à coude, selon les sondages réalisés hier à la sortie des urnes.
En Afghanistan, au moins 48 personnes ont été tuées dans un double attentat lié à la campagne pour la présidentielle du 28 septembre.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
En Tunisie, à peine le premier tour de la présidentielle terminé, les candidats qualifiés au second tour ont déjà les yeux rivés sur les législatives prévues le 6 octobre. Ce scrutin devrait redessiner le paysage politique du pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le candidat indépendant Kais Saied, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche, a écarté hier l'idée d'une alliance avec des partis à 3 semaines des législatives. Il n'y a pas d'alliance entre des partis politiques ou avec un parti ou une coalition de partis. Il y a un projet, a déclaré Kais Saied. Le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui a de son côté appelé à la mobilisation pour les législatives du 6 octobre. On souhaite tous que la deuxième étape permette aux Tunisiens de choisir leurs représentants au Parlement et à la présidence de la République, a déclaré Hatem Maliki, porte-parole de Nabil Karoui, incarcéré depuis le 23 août dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Le dirigeant du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, arrivé troisième, a également appelé ses partisans à voter en nombre à ce scrutin afin de peser dans la composition du gouvernement. Il a souligné qu'il revenait à l'organe consultatif du mouvement de décider quel candidat soutenir au second tour de la présidentielle prévu le 6 ou le 13 octobre.
Des milliers d'étudiants ont manifesté hier dans les rues d'Alger 2 jours après l'annonce par le pouvoir de la tenue d'une présidentielle le 12 décembre, un scrutin rejeté par la contestation. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Des tensions sont apparues quand la police a empêché les manifestants d'avancer jusqu'à la Grande Poste, symbole de la contestation qui agite l'Algérie depuis le 22 février. Selon des témoins, la police a arrêté au moins 10 manifestants et confisqué les téléphones portables des personnes qui avaient filmé les interpellations. Les étudiants manifestent chaque mardi depuis plusieurs mois. Des rassemblements plus larges ont lieu chaque vendredi. La manifestation d'hier était le premier rendez-vous depuis l'annonce dimanche par le pouvoir de la tenue d'une élection présidentielle le 12 décembre. Le mouvement de contestation rejette la tenue d'un scrutin et demande le départ de l'ensemble du système au pouvoir depuis 2 décennies. Une précédente tentative d'organiser une présidentielle le 4 juillet avait échoué en l'absence de candidats.
Mali, report par Bamako d'une réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger de 2015, censé restaurer la paix dans le pays. Elle devait se tenir pour la première fois hier mardi à Kidal, dans le nord. Ce report est dû à des raisons d'État impératives, selon une lettre du président du comité consulté par l'AFP. Par ailleurs, l'organisation régionale G5 Sahel a par ailleurs annoncé mardi avoir trouvé davantage de financement que prévu pour son programme de développement d'urgence destiné à endiguer la poussée djihadiste dans la région.
En République démocratique du Congo, l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été inculpé mardi pour détournement présumé de fonds alloués à la lutte anti-Ebola. sur fond de deuxième épidémie la plus grave de l'histoire. Le docteur Oli Ilunga, 59 ans, a été placé en résidence surveillée à Kinshasa après une journée d'audition au parquet, a précisé à l'AFP son avocat Guy Kabeya, ajoutant « l'instruction du fond du dossier continue ». Et le docteur Ilunga a nié toutes les charges qui lui ont été verbalement notifiées mardi.
Au Congo-Brazzaville, la ministre de la Promotion de la Femme, Inès Nefer Ingani, a été démise de ses fonctions hier mardi, après la divulgation sur les réseaux sociaux de la remise d'une importante somme d'argent au chef de file de l'opposition par les services de la présidence. Selon certaines sources, la ministre Ingani aurait favorisé cette publication. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin fait le point.
Dans le décret qui démet Inès Nefer Ingali de ses fonctions, le président de la République n'en souligne pas la cause. Mais la semaine dernière, le chef de file de l'opposition, Pascal Tatsema Diala, et son parti, l'UPADS, avaient réclamé sa tête, menaçant de la traduire en justice pour propos diffamatoires. En effet, une conversation téléphonique qui impliquerait la désormais ex-ministre de la Femme et un jeune cadre du PCT, le parti au pouvoir, dévoilait que le chef de l'opposition avait reçu d'importantes sommes d'argent de la part de la présidence de la République. Conséquence, le chef de l'État et son premier ministre n'ont pas hésité de faire partir la ministre qui est par ailleurs députée à Brazzaville. Nefer Ingani n'a pas eu de la chance car quelques mois avant, une autre conversation téléphonique impliquant une ministre et un officier supérieur de la police s'était retrouvée sur les réseaux sociaux mais sans coûter un quelconque poste. De la mémoire récente de la politique du Congo, jamais un ministre n'a été viré du gouvernement, fut-il par décret présidentiel. C'est toujours par remaniement ou réaménagement que les ministres, même démissionnaires, quittent le gouvernement. Le cas Ingani est donc emblématique et devrait interpeller sur le fait que les réseaux sociaux sont en train de devenir une arme politique très redoutable au Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a dépêché mardi son ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour discuter de la réponse aux attaques contre des installations pétrolières saoudiennes, alors que les États-Unis sont convaincus qu'elles ont été lancées depuis l'Iran avec des missiles de croisière. Pompeo rencontrera aujourd'hui le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, afin de coordonner les efforts pour contrer l'agression iranienne dans la région, a fait savoir le département d'État.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a accusé hier les États-Unis d'être dans le déni de la réalité lorsqu'ils accusent Téhéran d'être responsable des attaques revendiquées par les rebelles yéménites contre des installations pétrolières saoudiennes. Le point avec Eki Abadou.
Les États-Unis sont dans le déni s'ils pensent que les victimes yéménites des pires crimes de guerre ne feraient pas tout pour riposter, a écrit sur Twitter M. Javad Zarif. Samedi, les rebelles yéménites houthis ont revendiqué des attaques contre deux installations pétrolières en Arabie Saoudite. Washington affirme que ces attaques ont été lancées depuis l'Iran avec des missiles de croisière sans fournir de preuves pour appuyer ces accusations. Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, a assuré hier soir que son pays ne sait pas qui est derrière ces attaques. En visite au Caire hier, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a dit aussi que Paris ne savait pas d'où venaient ces attaques. Le président Donald Trump, qui n'avait jusqu'ici pas écarté la possibilité d'un entretien avec le président iranien Hassan Rouhani, a dit hier qu'il préférait ne pas le rencontrer lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Auparavant, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait exclu toute négociation avec Washington.
En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz attendent ce mercredi les résultats officiels d'élections législatives qui s'annoncent serrées et pointent déjà vers de difficiles pourparlers pour former un nouveau gouvernement. Les sondages à la sortie des urnes créditaient le Likoud, parti de droite de M. Netanyahou, de 30 à 32 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien, contre 32 à 34 sièges pour le parti bleu-blanc de M. Gantz, ancien chef de l'armée. Les résultats des alliés potentiels de chacun seront déterminants, la question étant de savoir qui des deux, M. Netanyahou ou M. Gantz, sera en mesure d'atteindre par des alliances la majorité absolue au Parlement, ce qui ne semble pas évident selon les mêmes sondages.
Au moins 48 personnes ont été tuées mardi en Afghanistan lors de deux attaques suicides, l'un contre un meeting électoral du président Ashraf Ghani et l'autre à Kaboul. Tous ces deux attentats ont été revendiqués par les talibans qui considèrent le scrutin présidentiel prévu le 28 septembre comme illégitime.
La Muneteco, Nanit Talani.
Le Sénégal et le Fonds international de développement agricole vont mettre en œuvre un projet d'appui à l'insertion des jeunes entrepreneurs agricoles. D'une valeur de 93,3 millions de dollars, ce projet vise à promouvoir l'inclusion des jeunes dans les exploitations familiales et les activités créatrices de revenus et d'emplois dans la production végétale, animale et piscicole. Il devrait impacter 150 000 jeunes ruraux âgés de 15 à 35 ans, dont 50% de femmes dans les Niaï, le bassin arachidier, la zone sylvo-pastorale et la moyenne Casamance. Les réseaux électriques des pays d'Afrique orientale et australe seront interconnectés d'ici 2 à 3 ans après l'achèvement de diverses lignes à haute tension, ouvrant ainsi la voie au commerce régional. La connexion des réseaux nationaux fournira un plus grand réservoir de ressources énergétiques et signifiera qu'un pays peut exploiter les stocks inutilisés d'un autre. Terminons par les prix du pétrole qui ont chuté ce mardi après des informations indiquant que la production saoudienne pourrait être rétablie d'ici 2 à 3 semaines, selon des analystes. Le prix du brut new-yorkais a baissé de 5,7%, reculant de 3,56 $ pour finir à 59,34 $, tandis que le baril de Brent londonien a baissé de 6,14% pour s'établir à 64,78 $. Environ 3 millions de barils de pétrole saoudien par jour resteront indisponibles pendant un mois après une attaque des drones ayant visé le secteur pétrolier saoudien. Ce volume représente la moitié de la production pétrolière saoudienne et 6% de la production mondiale.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Ivoirien François Zaoui n'est plus le sélectionneur du Niger.
François Zaoui a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Niger. C'est une séparation à l'amiable, a déclaré Ibrahim Tikiré, porte-parole de la fédération. Le technicien ivoirien de 58 ans n'est pas parvenu à qualifier le Niger pour la CAN 2019 et était la cible des critiques depuis la défaite 6-0 face à l'Égypte en septembre 2018. François Zaoui avait succédé au franco-allemand Guenotro qui a démissionné en octobre 2014 pour cause de mauvais résultats après avoir échoué à qualifier le MENA pour sa troisième CAN consécutive. À la tête du MENA depuis 2015, Zaoui totalise 16 matchs officiels pour 5 victoires, 4 nuls et 7 défaites. La destination du vice-champion d'Afrique en 2012 avec la Côte d'Ivoire n'est pas encore connue.
Le championnat togolais reprend le 6 octobre.
Alors que le 15 septembre avait été annoncé pour une reprise du championnat, c'est finalement le 6 octobre que les clubs reprendront le chemin des pelouses. La Supercoupe a été disputée le 8 septembre dernier avec le succès de l'ASK devant Maranatha, battu 5-3 dans les tirs au but après un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire.
Ligue des champions UEFA ce soir.
L'Atlético Madrid défie la Juventus Turin, son renversant bourreau du printemps dernier, dans un choc entre la star Cristiano Ronaldo et l'étoile montante Joao Félix. Les colchoneros gardent en travers de la gorge leur élimination dès les huitièmes. La faute aux Bianconeri et à Ronaldo, auteur d'un triplé lors d'une folle remontade en huitième de finale retour 3-0. Après une défaite 2-0 des Turinois à l'aller, le Paris Saint-Germain, privé de ses stars Neymar et Kylian Mbappé, démarre sa quête du Graal face au Real Madrid.
Toujours en Ligue des champions, Lyon est déjà sous pression.
Les Lyonnais ont été tenus en échec 1-1 sur leur propre terrain par le Zénith Saint-Pétersbourg. Incapable d'imposer son jeu, Lyon, qui a paru faible physiquement et toujours hors du coup collectivement, a concédé un but en fin de première partie. L'Inter Milan a concédé le match nul à domicile 1-1 devant le Slavia Prague. Le champion en titre Liverpool a commencé la compétition cette année par une défaite 2-0 devant le Napoli en Italie. 0-0 entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. L'Ajax a cartonné face à Lille, battu 3-0. Défaite à domicile pour les Blues de Chelsea devant le FC Valence 1-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Tunisie, le second tour de la présidentielle opposera l'universitaire indépendant Kais Saïd à l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui. D'après les résultats publiés par l'instance électorale, le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda Abdel Fattah Mourou est arrivé troisième. Les deux candidats en tête ont fait campagne en s'appuyant sur le sentiment de rejet par les Tunisiens de la classe politique aux commandes depuis la révolution de 2011. Pour une analyse, Idriss Fall a joint notre confrère Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien à Tunis.
Comment expliquer cela? Ben, tout bonnement, le peuple tunisien sanctionne les gouvernants pour la bonne raison qu'ils n'ont pas réussi à accomplir les objectifs de la révolution tels qu'ils ont été conçus et prévus par cette population. Celui qui ne réussit pas, il n'a qu'à quitter. Les Tunisiens veulent faire valoir leur choix, veulent réussir leur révolution.
Mais maintenant, est-ce que les deux qu'ils ont choisis, Kais Saïd et Nabil Karoui, est-ce qu'ils pourront répondre aux attentes face aux défis de la pauvreté, les défis du chômage qui avaient enflammé la Tunisie avant 2011, notamment à Sidi Bouzid?
Ben, deux volets dans ma réponse. D'abord, le régime tunisien est un régime parlementaire. Donc, du coup, la fonction constitutionnelle du président de la République, c'est surtout une fonction de sécurité, une fonction de diplomatie, de représentation de la Tunisie à l'échelle internationale, pas une activité socio-économique. Donc, sur ce plan-là, non, c'est pas la fonction du président de la République d'assurer ses objectifs de la révolution.
Maintenant, les élections parlementaires auront lieu quand alors et qui seront les favoris, si j'ose dire?
Il y a des parlementaires qui viendront en Tunisie le 6 octobre prochain. Pour le moment, ce vote, par contre, ce vote populiste rêveur, disons, ce vote de l'anti-système en Tunisie, ce vote peut se répercuter sur les élections parlementaires. Bien que quelqu'un comme Kais Saïd n'a pas de parti politique derrière lui, Nabil Karoui a créé un parti de toutes pièces. Récemment, il y a deux mois, en juin dernier, il a créé un parti. Donc les parlementaires risquent aussi de voir divisées entre les différentes options. Mais chose est certaine, les partis du pouvoir seront logiquement sanctionnés dans cette tendance à sanctionner la coalition en place.
Et Ennahda dans tout ça, qui avait remporté les élections législatives, et le parti Nida Tounes dans tout ça alors?
Ben, Ennahda, c'est le vice-président de l'Assemblée, c'est Ennahdaoui. Le Abdel Fattah Mourou, qui est venu troisième, est Ennahdaoui. Donc Ennahda est sanctionné. Par contre, tout comme Nida Tounes est divisé en 5 ou 6 partis, et qui, représentant dans les présidentielles, il y avait 5 ou 6 Nida Tounes, et qui ont échoué tous. Ennahda a régressé. Le public d'Ennahda était 1 500 000 en 2011. Il est devenu 800 000 dans les élections de 2014. Et dans cette élection, il ne sent que 350 000. Donc Ennahda a été rouillé, si j'ose dire, par le système. L'islam politique a été rouillé par la démocratie.
Notre confrère Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien à Tunis.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, nous revenons sur les violences xénophobes en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a envoyé une mission dans plusieurs pays pour rassurer ses homologues et réaffirmer que l'Afrique du Sud était toujours ouverte aux migrants du continent et il a promis de punir les auteurs de ces actes haineux. Cette offensive de charme réussira-t-elle à calmer la colère de plusieurs gouvernements envers Pretoria? Ces violences remettent-elles en cause les idéaux panafricanistes sur le continent? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les Israéliens se sont à nouveau rendus aux urnes hier pour désigner les futurs membres de la Knesset, des législatives à haut risque pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui espère pouvoir disposer d'une coalition qui lui permette de conserver son poste. Pour une analyse, Claire Morin-Gibour a joint l'historienne et spécialiste d'Israël, Frédéric Chilot.
L'ambiance est très électrique. Parce que les résultats s'annoncent extrêmement serrés. Alors, il y a eu une grande nouveauté, une surprise, c'est qu'il y a un taux de participation qui est beaucoup plus élevé qu'en avril dernier, lors des premières élections de l'année, alors qu'on s'attendait au contraire, justement, à ce que les gens soient moins mobilisés. Donc, chacun des deux grands partis, d'un côté le Likoud de Netanyahou et de l'autre bleu-blanc de Gantz, font des annonces pour dire « Attention, nous sommes en train de perdre, ce sont nos adversaires qui se mobilisent davantage. » Ils font une campagne aujourd'hui même qu'on appelle en yiddish « Gewalt », qui veut dire « L'alarme, tout le monde crie au secours, nous sommes en train de perdre » pour rassembler et rameuter les militants. Ça électrise énormément les foules.
Quel est l'enjeu de ce scrutin ?
L'enjeu, il est vraiment suprême, il est vraiment important pour Israël, pour l'État, pour la démocratie, parce que l'enjeu, ça n'est rien moins que la survie d'Israël comme État juif et démocratique, comme l'ont voulu les fondateurs de l'État d'Israël. Parce que c'est peut-être ce soir, demain, il y aura peut-être un gouvernement d'alternance qui sera libéral, ouvert, respectueux de l'État de droit, où la solution des deux États n'est pas tout à fait enterrée, ou bien, on bascule totalement avec un cinquième mandat de Netanyahou qui a promis des annexions et qui a beaucoup donné à l'extrême droite annexionniste. Donc on basculerait dans un État annexionniste dominé par les religieux et aussi les racistes.
Et puis c'est un scrutin évidemment crucial pour Benjamin Netanyahou puisqu'il intervient un mois avant sa comparution devant la justice. Pour corruption ?
Exactement. Et vous savez, les premières élections qu'il a anticipées, c'était en avril dernier, c'était uniquement pour obtenir un gouvernement d'immunité et donc ne pas aller devant le juge. Malheureusement pour lui, il a échoué à former une coalition. Il a demandé à la Knesset de se saborder. Nous en sommes là pour la première fois de l'histoire d'Israël avec deux élections en une année. Ce soir, il brigue un cinquième mandat. Il reste extrêmement populaire et dans les dernier sondage, même si c'est très aléatoire, il est toujours en tête. Mais il est affaibli, il est critiqué par ses partenaires naturels de la droite. Il a été lâché par l'un de ses colistiers qui était Avigdor Lieberman. Et il est aussi, surtout, vous l'avez dit, miné par les affaires.
Jointe hier par Claire Morin-Gibour, Frédéric Chilot, co-auteur du livre « Jérusalem ».
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les attaques de drones samedi en Arabie Saoudite ont déclenché des incendies dans la plus grande usine pour le traitement de pétrole au monde et sur le champ pétrolier de Khurais, deux sites dans l'est de l'Arabie Saoudite, ce qui a fait grimper lundi les prix du pétrole. Pour comprendre les implications de cette hausse, Bagassi Koura a joint hier à Washington Jean-François Seznek, professeur d'économie à l'université Johns Hopkins.
L'importance pour l'économie mondiale, c'est que tous les pays qui achètent du pétrole, qui importent du pétrole, vont souffrir. Et c'est assez grave pour beaucoup de pays africains, bien sûr, mais d'un autre côté, ça a aussi un avantage pour ceux qui produisent du pétrole.
Pour les pays africains qui produisent du pétrole, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
Ah non, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que le Nigeria, le Gabon et l'Angola en particulier vont avoir beaucoup d'avantages. Déjà les prix ont monté de plus de 14%. Ils redescendent un petit peu en ce moment, mais ils vont continuer à rester à ces niveaux-là. Donc
ça va donner une certaine stabilité élevée sur les prix et ça va beaucoup aider ces pays-là, bien sûr.
Et de l'autre côté, si ça dure, ça va créer des soucis pour les autres pays qui ne produisent pas du pétrole.
Oui, et à long terme, ça va aussi créer des problèmes pour ceux qui produisent du pétrole, parce que ce qui va se passer, c'est que si vraiment les prix continuent à monter beaucoup plus haut, c'est pas sûr, mais s'ils montent beaucoup plus haut, ça pourrait créer une crise mondiale économique, ce qui veut dire que à ce moment-là, une fois la crise mondiale part, si elle part, ça va faire la demande pour le pétrole va diminuer énormément et les prix vont tomber énormément à ce moment-là. Donc ça fera du mal à tout le monde, si vous voulez.
Alors, généralement, le gaz et le pétrole sont associés. Est-ce qu'il faut craindre aussi une montée des prix du gaz?
Ah oui, certainement. Les prix du gaz ont monté même aux États-Unis déjà, hein, un petit peu. Il est certain que les prix du gaz vont monter aussi parce que les grosses compagnies qui produisent de l'électricité, par exemple, si elles utilisent du fuel pour faire marcher l'électricité, ils peuvent le remplacer par du gaz. Donc la demande de gaz va augmenter énormément. Et effectivement, ça pourrait faire monter le prix du gaz.
On peut dire que ça tombe au très mauvais moment parce que depuis plusieurs semaines, on parle de récession ou de non-récession ou de ralentissement. Et ça, c'est une donnée qui vient aggraver la situation de l'économie mondiale.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est, disons que c'est un autre risque qui s'ajoute à tous les autres risques. Et c'est donc très difficile de savoir où ça va aller, tout ça. Disons que les nuages s'accumulent. Hein. Et on pourrait avoir un gros orage très bientôt.
Jean-François Seznec, professeur d'économie à l'université Johns Hopkins.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Ghana a lancé une initiative visant à encourager la visite des Africains américains cette année, 400e anniversaire du début du tristement célèbre commerce triangulaire. À Accra, une chef cuisinière revenue sur la terre de ses ancêtres attend ses visiteurs américains pour leur donner un avant-goût des repas du terroir. Reportage de Stacy Knott à Accra, repris ici par Lionel Gahima.
Dans son restaurant en bordure de route à Accra, la chef cuisinière sage prépare les plats assaisonnés aux épices ramenées des États-Unis, des Caraïbes et du Ghana. L'odeur des hamburgers aux lentilles flotte dans l'air pendant que les clients attendent à l'extérieur, assis autour de table.
J'ai cette influence du Sud. Ma grand-mère faisait du pain de maïs et des pâtes au fromage. Toute la nourriture soul des Noirs américains, mais également l'influence des Caraïbes. Je ne sais pas si beaucoup de personnes vivant en Afrique savent que les aliments dans les Caraïbes sont si semblables parce que vous avez des descendants directs de l'Afrique aux Caraïbes.
La chef cuisinière préfère ne pas donner son vrai nom. Elle dit avoir de plus en plus des clients africains-américains venus au Ghana dans le cadre de l'année du retour, marquant le 400e anniversaire du début de la traite des esclaves. Ils sont assis à côté de clients habituels pendant que la propriétaire du restaurant et sa famille préparent des ragoûts à base de légumes. La chef cuisinière est née à Brooklyn, dans la ville de New York. Très jeune, elle a déménagé à Sainte-Croix, dans les îles Vierges, et en 2005, elle est venue s'installer au Ghana.
Lorsque les Africains américains viennent au Ghana, considérés comme notre patrie, nous sommes heureux. Mais en ce qui concerne la nourriture, vous cherchez toujours ce à quoi vous êtes habitué. J'attire les Africains américains parce que j'ai toutes les saveurs dans chaque repas.
Comme traiteur, elle sert aussi des repas à domicile à Accra avec son café hebdomadaire au bord de la route. Le menu change chaque semaine, variant de la tarte au patates douces, aux tacos, sans oublier les salades mixtes préparées avec des ingrédients locaux. Pour des clients comme Grisel Industrioso, la nourriture est une affaire de bon goût, mais aussi de communauté.
Il y a quelque chose qui nous rassemble comme un seul peuple et qui peut se ramener à la nourriture.
Essi Bartel, une entrepreneur ghanéenne, explore les liens entre les produits alimentaires du Ghana et ceux des États-Unis. Ces mélanges d'épices et ces sauces veulent montrer les similitudes dans l'art culinaire, en particulier chez ceux qui ont le même héritage africain.
Être capable de trouver tous ces points communs de saveurs et les rapprocher, c'est tout ce que j'essaie de faire avec Essi Spice. J'espère que l'année du retour va inciter les gens à voir à quel point le monde est connecté, même du point de vue de la nourriture.
Pour Bartel et la chef cuisinière, cette année est aussi un bon moment pour réfléchir sur l'histoire et le patrimoine commun au nord du monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydou Dia, Michel Joseph et Kelvin Faure.